Brillante extrême. L'actualité asiatique vue par les missions étrangères de Paris. Une émission présentée par Duarte Mesquita da Cunha.
Nous retrouvons, chers auditeurs, avec beaucoup de joie, le père Baltazar Castellino. Le père, ordonné en 1979, a été missionnaire à Madagascar entre 1987 et 2004. Il est aujourd'hui supérieur de la Maison des Missions étrangères de Paris, rue du Bac. Alors, père Baltazar, bonjour. Merci.
Bonjour. Bonjour, Duarte.
Alors, père, c'est une grande aventure de l'Inde à la France en passant par Madagascar. Comment est née votre vocation missionnaire ?
C'est une petite histoire parce que quand j'étais petit, la première chose était un père, Joseph Taureau, qui était vicaire dans la paroisse. Il est venu chez nous. Notre maison, village était 8 km loin de l'église paroissiale. Il vient, il entre dans la maison comme il faisait, tous les prêtres faisaient, après Pâques. La bénédiction des maisons des chrétiens, des fidèles. Il vient, je le vois, un homme de 1m80, en soutane, en géant.
Vous étiez alors tout petit
ou... J'étais à peine 4 ou 5 ans, juste tout petit. Je le vois entrer dans la maison et bénir les chambres, toutes les pièces, et ça m'a marqué. J'ai dit, je dois devenir comme lui, mais sans savoir. Qu'est-ce que c'est ?
Qu'est-ce que ça voulait dire qu'être prêtre ?
C'est le commencement.
Et alors, votre famille a joué un rôle particulier à ce moment-là ? Vous avez beaucoup prié en famille ?
Ce qui se passe dans toutes les familles catholiques de la région, diocèse de Mangalore, au sud-ouest de l'Inde, c'est prier 3 fois par jour. Le matin, Angelus. Avec les actes, tous les actes, ça dure 55 minutes ou 10 minutes, à midi, Angelus, et le soir, 1 heure de prière, dont il y avait Angelus, plus chapelet, plus les intentions, pétitions pour les prières pour tout le monde. Plus, en 1961, peut-être, j'avais à peine 6 ou 7 ans, mon frère a porté une prière donnée par une sœur de la paroisse, de notre école, c'est prière pour la vocation, qui dit ceci, hein, il y a beaucoup de moissons et peu d'ouvriers, Seigneur, vous pouvez choisir de notre maison ce que vous voulez, celui que vous voulez, celle que vous voulez, pour travailler dans votre champ. C'est la prière. Et tout de suite, en 61, ma sœur aînée est entrée dans la congrégation des petites sœurs de Bethany, juste fondée avant 30 ans. La prière continue. Ma cousine, partie en 65, a élevé ma sœur en 68. Ma cousine, une autre cousine, en 70 avec moi. Je suis entré aussi en 70.
Donc vous serez 3 en tout dans votre famille. On entendit un pape un jour dire « Une famille qui prie est une famille qui vit ». Et cette fécondité de votre famille, vous l'attribuez à quoi ?
C'est la vie de foi de nos parents et leur façon de prier et exemple, modèle pour nous, pour les enfants. Le modèle était les parents, leur famille, leur vie conjugale, vie de famille. On n'a jamais vu dans toute notre vie nos parents se bagarrer. Jamais la querelle. S'il y a eu des différences d'opinion, peut-être dans un privé, mais jamais en public devant les enfants. C'était un modèle, les gens de prière, les gens de travail, et ils ont mis tout pour élever leurs enfants dans la foi et donner l'éducation.
Donc la famille a un témoignage missionnaire, un rôle particulier dans l'Église pour vous ?
Oui, c'est primordial. La famille qui prie apporte beaucoup de vocation et la joie dans la vie de leurs enfants.
Alors, quand vous étiez enfant, Père Balthazar Castellino, vous aviez une dévotion particulière pour Saint François Xavier, Don Bosco et Sainte Thérèse de Lisieux. Qu'évoquaient donc pour vous ces figures de sainteté?
Ce qui s'est passé, c'est mon père aimait beaucoup lire. Il a acheté les petits livrets, des livres de la vie des saints, publiés dans ma langue maternelle, Konkani. Et on avait ces petits livres, et on lisait, les enfants lisaient. Et pour moi, ce que vous dites, c'était ces trois saints qui m'ont marqué. Saint François Xavier, je dis, je serai missionnaire comme François Xavier, aller loin. Et Don Bosco, je vais m'occuper de les jeunes, des jeunes pour avoir des vocations, en même temps vivre une vie de foi.
De charité.
De charité et de foi. Et troisième, Sainte Petite Thérèse, parce que j'ai admiré beaucoup sa petite voie à la sainteté. C'est ça qui m'a beaucoup aidé. J'ai dit, je vais vivre comme ça, pas comme Balthazar. J'ai pensé, il n'est pas un patron, sans Balthazar. Donc j'ai pris les trois comme mes patrons.
Alors, ma mère, ma vocation, c'est l'amour. Hein. C'est la fameuse phrase de Sainte Thérèse. Et votre vocation sera aussi marquée par cet amour pour ceux qui vous entourent. Alors, vous avez parlé du curé de votre paroisse, Andrew Rodriguez, et aussi Monseigneur Alphonse Mathias, qui vous a particulièrement marqué. Et une phrase qu'il a prononcée, « Ne soyez pas formés pour être des curés de paroisse, mais pour être des missionnaires. » Ça a été la première pierre de votre discernement pour la mission.
C'était même avant. Parce que c'est grâce à les trois saints hein, qui sont missionnaires, François Xavier, j'ai voulu être missionnaire. C'était toujours, j'ai choisi ce diocèse de Chikmagalore comme c'était un diocèse missionnaire, selon ma tante et la sœur Gemma, qui était une religieuse, Ursuline franciscaine. En arrivant dans le diocèse, Monseigneur Mathias, c'est lui qui a dit ça, ne formez pas de devenir curé, mais pour devenir missionnaire. Ça m'a beaucoup frappé. C'est-à-dire l'évêque qui encourageait ces séminaristes d'être formés comme missionnaires. Ça, c'est formidable. Et ce n'est pas seulement ça. Deuxième année, après la première année du séminaire, il nous a réunis, tous les séminaristes, il nous a divisés en deux groupes, nous a donné assez de nourriture pour une semaine, il dit, allez dans les villages et présenter, témoigner auprès des hindous et nos chrétiens votre vie. Comme ça, c'est la première fois un évêque qui envoie ses séminaristes en mission dans la campagne.
Alors, votre témoignage, hein, évidemment, a retrouvé dans la revue des missions étrangères de Paris, la revue numéro 580 du mois en cours. Et dans ce témoignage, vous parlez, après votre ordination, de la fondation avec le père Jérôme Machado, d'un centre d'évangélisation, Jivan Yoti Ashram. Cette expérience, vous l'avez voulu, vous l'avez pensé, comment est-elle née?
Comme notre diocèse de Chikmagalore divisé en trois districts. Un, Hassan, où on s'occupait des chrétiens Kanariga, de Canada. Et là, Chikmagalore, on s'occupait des catholiques Konkani. Et à Shumoga, on s'occupait des catholiques Tamil, Canada, Konkani. Donc, on s'occupait des catholiques. On n'avait pas de possibilité de proclamer. Donc, j'ai dit, peut-être on va commencer une nouvelle évangélisation. Cette idée était pour témoigner parmi les hindous et musulmans notre foi catholique tant que prêtre. Parce qu'il n'y avait pas, à cette époque, une paroisse. Il y avait quelques familles, 18 familles catholiques à cette région. Donc, c'était pour nous, dans une masse de 200 000 habitants, être témoin de cette jiva, la vie, jyoti, lumière du Christ. C'était notre idée, était là. Donc, ce qu'on a fait, la technique, c'est témoigner. On ne peut pas proclamer. Donc, on a commencé d'abord à être comme gourou, habillé comme les gourous hindous, avec l'habit safran, laisser pousser la barbe et les chevaux, vivre végétarien, ni manger poisson, viande, poisson, ni poisson, ni œuf. C'était vraiment purement végétarien pour les Javanais hindous. Hein. Mm. Ensuite, dormir par terre, sans lit, c'était une natte. Dormir par terre, c'est pour montrer la simplicité des gourous hindous. Donc c'était ça. On a commencé par là. Comme j'ai travaillé dans une pharmacie à Bombay pendant mon temps de stage, année de stage au Regency, j'avais la connaissance des médicaments, on a commencé un petit dépôt de médicaments pour soigner les soins de base hein, aux gens qui venaient. Plus, on donnait les cours gratuits de soutenance aux enfants de primaire, secondaire et de collège et universitaire. C'était ça. On a fondé une équipe de foot. Il avait hindou, musulman, j'étais le directeur.
Sans rappeler Don Bosco, hein, qui est le foot pour les jeunes, fait de se mettre au service des jeunes tels qu'ils sont.
Oui, c'était ça. Plus, on a commencé un troupe de théâtre où il avait hindou et musulman. Plus, quand on faisait le théâtre social, avec un thème social et moral, on aussi ajoutait les danses bibliques dedans. C'était la technique pour évangéliser avec les danses et la musique. C'était ça, on a vécu pendant 3 ans et demi, mais pour moi, mais personne n'est venu demander le Christ. C'était le moment où j'ai dit, je dois aller au nord de l'Inde pour proclamer l'évangile où il y avait la possibilité d'évangéliser les gens de tribus et des différentes ethnies qui n'étaient pas catholiques, qui n'étaient pas hindous.
Eh bien, merci, Père Balthazar Castellino. Nous allons bientôt revenir avec vous pour vous suivre dans le nord de l'Inde. Nous écoutons à présent le grain de blé de Dei Amoris Cantores.
Si le grain
Nous avons entendu le grain de blé chanté par les Dei Amoris Cantores et nous retrouvons avec plaisir le père Balthazar Castellino. Le père a été missionnaire à Madagascar entre 1987 et 2004. Il est aujourd'hui supérieur de la maison des missions étrangères rue du Bac. Alors mon père, votre première rencontre avec les MEP, elle est en 1984 avec le père Rossignol. Le début d'un appel pour une terre que vous ne connaissiez pas, Madagascar.
Oui, on était formé par les MEP à Bangalore, mais ils n'ont jamais parlé de la Société des missions étrangères, parce que leur but était, c'est pour fonder les églises locales et pour former le clergé autochtone, jamais recruter des vocations. Mais quand je pensais aller au nord de l'Inde, en train de préparer après 5 ans, dans mon ministère, dans mon diocèse, on avait une réunion des anciens élèves du séminaire de Bangalore. Et Rossignol, ancien recteur qui a travaillé pendant 26 ans au séminaire et en Inde, il vient pour parler de mission ad extra. Et pendant sa conférence, il fait un appel. Si vous voulez être missionnaire, allez à Madagascar. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent être chrétiens, il n'y a pas assez de prêtres. Et tout de suite, j'ai dit, oh, c'est un appel pour moi. La même soir, je l'ai rencontré. Comme ça, on a parlé. Ensuite, je suis allé, grâce à sa direction, son conseil, je suis allé dans mon diocèse voir mon évêque.
Pour lui demander,
l'autorisation. Autorisation. Il l'a pris très bien. Il a dit, je suis prêt à envoyer 3 ou 4 prêtres, comme une équipe de prêtres pour Madagascar. Mais j'avais peur, je ne savais pas après où est Madagascar, quelle est la vie, quelle est notre sécurité. Et en 84, en novembre, il y avait l'exposition du corps de Saint François Xavier à Goa, qui fait tous les 10 ans. Donc je suis allé avec mes chrétiens de Soraba, là-bas, et devant Saint François Xavier, j'ai dit, si tu as pu venir en Inde en 1542, je parle à Madagascar maintenant. Et donne-moi ta bénédiction. Il m'a béni. Comme ça, de retour, j'ai écrit au Père Rossignol que je suis prêt à aller à Madagascar. Vous pouvez envoyer une lettre à l'évêque pour les questions qu'il a posées à moi. Donc, c'est commencé comme ça. Et en septembre 1985, on est arrivé à Paris pour apprendre le français. On était 3, Père Doré, qui est à l'île Maurice, Georges, évêque à Madagascar, et moi à Paris.
Et alors, aux missions étrangères, vous découvrez un lieu qu'on peut d'ailleurs toujours visiter aujourd'hui, la salle des martyrs des missions étrangères. Et quel souvenir vous gardez de cette journée?
Ces salles de martyrs, à cette époque, n'existaient pas comme aujourd'hui. C'était actuel oratoire de martyrs, au rez-de-chaussée du bâtiment principal. Et la porte était dans le couloir, tournée vers le couloir de rez-de-chaussée. C'était toujours fermé. Il y avait un soeur père Simonet, ancien missionnaire de Vietnam, qui ouvrait pour les visites privées. Un jour, après déjeuner, je pars chez moi et je vois la porte ouverte. Et j'entre, je ouvre la porte, j'entre, je regarde au fond le tableau de Saint-Pierre Bory qui me frappe. Sa décapitation, ce tableau-là. Je dis, si c'est Michel Tanager comme ça, je vais être membre. Je ne savais pas comment.
Et ce n'était pas encore possible.
C'était pas possible.
Début des années 90.
Non, c'était possible. Parce que j'ai fait une demande en 86 dans l'Assemblée générale. C'était refusé parce que le MEP n'était pas prêt à accueillir des jeunes prêtres de l'Église autre que francophone. France est francophone. Donc seulement en 92, la porte était ouverte. On était déjà à Madagascar et on est entré en 93.
Alors, Madagascar, vous êtes arrivé en 1986, vous avez été envoyé à Andriba, une zone qui couvrait 6000 km et 21 postes de mission. Vous racontez dans votre témoignage le contraste avec les Indiens qui étaient déjà présents, pour la plupart musulmans et hindous, surtout des commerçants. Et c'est le 31 août 1987 que vous partez pour votre première expédition missionnaire avec un prêtre spiritain présent depuis 1959. Une expédition que vous n'hésitez pas à présenter comme un défi.
Oui, c'est une histoire un peu drôle. Parce que la première fois, le père d'Amouville m'a dit, voilà, je t'amène, je te présente aux chrétiens, parce qu'ils ne connaissent pas les Indiens. Ils connaissent les Indiens commerçants. Donc vous êtes les premiers non-musulmans, non-commerçants qui sont ici. Donc je te présente d'abord, comme ça tu peux continuer la mission ensuite. Il avait déjà 60 ans. Donc moi, je m'occupais de la brousse. Et on a fait première fois 15 km. D'abord, un peu de André Fana, mais c'était drôle. On a quitté la mission, les soeurs nous conduisaient, et sur la route, la voiture tombait en panne, à peine 12 km. On restait pendant 3 heures pour chercher une autre occasion. C'était passé la route nationale RN4 qui lie de Tana, capitale, Tananarivo, à Majanga. la capitale de la province, du nord. Donc, à peine 12 km en panne. Heureusement, il y avait quelqu'un avec un Land Rover. Il nous a vus, deux étrangers, lui est français, moi un indien. Il nous a pris tout de suite, il nous a conduit jusqu'au point où la catéchiste devrait venir nous chercher. Et arrivant là-bas, déjà en retard, au lieu de venir à 7h30, on est déjà 10h40 ou 10h50. Il est déjà parti, retour. Mmh. Et parce qu'il faut porter les bagages. On avait autour de 20 kilos, chacun 10 à 15 kilos. Oui, pour porter. Nous, on ne porte pas les bagages, on n'a pas la force. Donc, c'est lui qui porte les bagages. Il est revenu, il a vu autour de 2 km loin, sur une colline. Il nous a vu, il est revenu. Après, on est continué. La première partie, c'est 15 km. On a bu l'eau contaminée. Et résultat, après la troisième mission, on a fait après 25 km à pied, la deuxième église, et encore 3 jours là-bas, encore 15 km, la troisième, Antani Beritsara, l'eau contaminée qu'on a bu a donné des effets, résultats, diarrhée, dysenterie, amibique. Et ça, c'était la nuit, on ne sait pas combien de 40 fois il est sorti par la mauvaise là, à cause de la dysenterie. Et pauvre, le matin, il est épuisé complètement. Moi, j'étais en forme. Il m'a dit, alors Balthazar, je ne peux pas présider la messe. J'ai préparé l'homélie, tu es tout nouveau. Donc, je prêche, tu célèbres la messe. Donc, je commence la messe. Il est venu pour l'homélie. Il est retourné. Moi, j'ai continué l'offertoire. Pendant la préface, je ne pouvais plus continuer. J'avais le ballonnement dans mon ventre. J'ai dit, les gens, vous chantez pour la Hosanna, Sanctus. Ils commencent à chanter. Je suis sorti de la chapelle, j'arrive derrière la sacristie, dans ma ville, venait de la toilette, il dit, vous continuez. Il est retourné à la chapelle pour dire la messe, c'est lui qui a fini la messe, j'étais complètement
dans les conditions rocambolesques. Alors, oui. Compter sur les autres a été toute l'expérience de votre mission, une mission qui prendra la forme dans les années 1986-87 de la défense des sans-voix, de ces paysans qui se faisaient voler leur bétail. C'est une leçon qui fait penser évidemment à la situation de Jésus devant Pilate sans personne pour le défendre. Alors après toute cette expérience à Madagascar, vous allez rentrer à Paris, et vous allez souffrir l'épreuve de la maladie. Quel sentiment vous a habité? Qu'est-ce que vous retenez de ces épreuves de souffrance et de l'expérience de Dieu?
La première expérience, c'était à l'île Maurice, après l'opération, soi-disant, hernie discale à Madagascar, qui est mal tournée, parce que c'était pas hernie discale, c'était cancer de moelle osseuse. J'arrive, après 2 mois, à l'île Maurice, un médecin indien, qui était là-bas, en année sabbatique, il déclare que j'ai le cancer de moelle osseuse. La première réaction, il dit, j'ai une occasion de participer dans la souffrance de Jésus. Je ne savais pas, je vivrais. Hein, parce que j'ai dit, juste avant, une sœur, Jésus a vécu 33 ans seulement. Moi, j'ai déjà vécu 33 années de prêtrise. Donc maintenant, comme Saint-Paul, j'ai couru. Maintenant, je peux attendre la couronne de Jésus. C'était avant, j'avais dit. Mais quand j'ai compris que c'était le cancer de moelle osseuse, j'ai dit, une occasion, jusqu'à la fin, occasion de participer dans la souffrance de Jésus. C'était sa première réaction. Après, j'ai continué. Donc, j'ai reçu une grâce. C'est vraiment la grâce qui m'a donné le courage, force pour continuer dans mon traitement jusqu'à aujourd'hui. Hein.
Alors, dans les forces qui vous ont permis de tenir, vous parlez d'un poème, « Les empreintes de pas dans le sable ». Quel est le sens de ce poème?
C'était en 2017, cette deuxième attaque. La première attaque était 2012. J'étais soigné à l'hôpital Purpan en 2012-2013. Après, j'étais supérieur de maison de retraite à Louris. J'arrive en 2016 à Paris comme supérieur de maison, à peine arrivé, rechute. Et j'étais à l'hôpital Cochin pour me soigner. Et en septembre 2017, après avoir fait la greffe, de malosseuse, cellule souche de malosseuse, mais j'ai toujours dit, c'est la chimio, greffe et rétablissement. J'ai toujours dit, c'est la passion, mort, dormition, résurrection.
Passion, mort et résurrection, c'est aussi le chemin de l'Église pendant ce tridôme pascal. Voilà, merci Père Balthazar Castellino, votre témoignage est à retrouver dans la revue numéro 580 des Missions étrangères de Paris. Et nous, chers auditeurs, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Orient Extrême.